Bonjour et bienvenue, c'est un deuxième entretien. C'est le courage de la vérité, le courage de rester fidèle, de traverser parfois des moments de lutte, de solitude et de combat. Je reçois Madame Christine Boutin, auteure d'un livre paru aux éditions Pierre Tequi il y a quelques mois, « Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français ». Madame Boutin, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est une joie de vous accueillir ici et dans ce deuxième numéro des Clés pour vivre. Nous allons essayer de bien décrypter un petit peu toutes vos paroles, car on relie un petit peu votre parcours de femme, d'enfant. Vous avez nommé, lors du tout premier entretien, et j'aimerais y revenir, il n'y a jamais de hasard ni de coïncidence dans la vie. Vous avez perdu votre maman, vous étiez alors une petite fille âgée de 5 ans. Une mère, c'est beaucoup. La mère est le symbole aussi de la vie. Elle porte pendant des mois et des mois, ces 9 mois, de grossesse, ce petit être qui va grandir et elle vous a donné la vie et cette maman vous l'avez perdue très jeune. J'aimerais peut-être introduire ce deuxième entretien, je vais vous laisser parler entre cette perte, cette mort d'une maman alors que vous êtes une enfant et tout votre combat de femme entrant en politique. Vous avez lutté pendant 40 ans autour de ce grand thème de la vie. On vous écoute.
Il est vrai que la perte de sa maman, c'est inexplicable, ce n'est non justifiable pour un enfant, pour un adulte, même pour une vieille dame comme je suis. C'est toujours aussi présent. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que rien n'est au hasard, effectivement, que nous avons chacun une mission, que le Seigneur nous donne la vie, mais en ayant un projet sur chacun d'entre nous. Et la difficulté, c'est de connaître ce projet, d'en être consciente. J'en suis consciente vraiment aujourd'hui, à mon âge, j'ai 80 ans, on peut le passer. Mais quand j'avais 40 ans, je ne me rendais pas compte. Je n'avais que la souffrance, mais je n'avais pas la vision. Quand j'ai réagi par rapport à la loi sur l'avortement, j'ai réagi avec mes tripes, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire le bonheur d'avoir donné la vie, d'avoir porté 3 enfants, et cette admiration que chacun a de toute façon quand l'enfant est là. C'est magnifique, je suis arrière-grand-mère maintenant. Pour la première fois, j'avais encore la photo de mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, qui vient d'avoir 8 mois. Mais le regard d'un bébé, d'un jeune enfant, c'est la transparence, c'est la beauté, c'est la lumière, c'est n'est pas abîmé. Alors bon, voilà, moi je pense que la mort de ma mère a été effectivement déterminante pour moi dans ce combat, que je ne savais pas, mais qui m'a vraiment blessée quand il y a eu la loi Veil. J'en ai sans doute pris conscience davantage que d'autres à cause de cela. Mais je veux dire aussi mon expérience par rapport à cette douleur immense que j'ai encore très pesante du décès de ma mère. C'est que j'ai pu voir dans les familles qu'il y avait des familles heureuses et puis il y avait des familles malheureuses. Il y avait des familles qui essayaient de faire le mieux et qui n'y arrivaient pas. Et moi, la chance que j'ai pu avoir en perdant ma mère, parce que je suis une femme très positive, j'essaie de toujours trouver ce qui est positif, c'est que j'ai pu me construire une mère idéale. Ma mère était naturellement magnifique et splendide. Elle ne pouvait qu'être bonne, elle ne pouvait qu'être en paix. C'est une femme d'exception. C'est pas la Vierge Marie, mais c'est une femme d'exception, ma mère. Et elle n'était certainement pas d'exception. Ma belle-mère, que je vous l'ai dit, je lui dois tout, n'était pas une femme d'exception. Et peut-être que ma belle-mère était mieux adaptée à me préparer au combat qui allait venir que ne l'aurait été ma mère biologique. Ça, c'est vraiment, je dis cela parce que je trouve que dans toutes les épreuves, et j'en ai connu bien d'autres, mais la plus grave, c'est celle-là, celle de perdre ma mère, mais dans tous les combats que j'ai pu avoir, j'ai toujours essayé de trouver le côté positif de ce combat. Je n'ai jamais accepté que la difficulté, la peine, la souffrance m'envahissent et m'éteignent. Non, non, pas du tout. Il faut rebondir. Il y a une raison à cette difficulté. En tous les cas, pour moi, ça a été mon chemin. Si bien qu'à chaque fois que j'ai eu des combats difficiles, souvent injustes, parfois fondés, parce que j'ai pu avoir des paroles maladroites, etc., je n'ai jamais voulu m'écraser et mon mari était là. Parce que c'est, la politique, c'est une affaire de couple quand on est marié. Mais de toute façon, je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais on fait tous de la politique. Hein. Un couple, c'est une relation politique. Hein. Donc, enfin bref, mon mari était là pour m'aider. Et donc, j'ai toujours dépassé l'injustice, la blessure que j'ai pu ressentir, quelle que soit la situation. Ça, c'est une grâce particulière que m'a donnée le Seigneur. Mais c'est aussi la présence de Jésus qui, depuis 1988, a toujours été là. Moi, je ne suis pas une femme seule. Je ne suis pas une femme seule. Je l'ai dit pendant longtemps, jusqu'à ma conversion, qu'on est seul dans la vie. Ce n'est pas vrai. Jésus est là. La Vierge Marie aussi. Moi, c'est plus Jésus. Mais Jésus est là.
Donc, puisque vous évoquez aussi cette solitude et cette présence du Christ à vos côtés, vous n'avez jamais connu des moments un peu d'effondrement, de doute dans des périodes de combat en politique que vous avez menées ?
Non.
Non, il était là.
Je suis désolée.
Donc, c'est une grâce particulière
que vous avez reçue. Ah bah bien sûr, bien sûr.
Malgré le poids de parfois de grands combats.
Ah bah bien sûr.
Et toujours que vous avez conduit en tant que femme politique pour défendre la vie, parce que c'est le point, c'est ce qui vous a donné votre fidélité en politique.
Absolument.
C'est la défense de la vie du début à la fin.
Ben, la mère naturelle, la conception à la mort naturelle.
Vous avez parlé de se rappeler cette loi Veil en 1975. Oui, quand cette loi en 75 est passée et qu'elle est aujourd'hui à la Constitution.
Oui, oui. Mais justement, si vous voulez, quand on regarde... Voilà, moi, j'ai très bien connu Madame Veil. Bien sûr que je l'ai connue. Je peux vous dire que c'était une femme qui n'était pas facile. Elle avait un grand caractère. Gros caractère, on n'était pas d'accord, naturellement. Mais il n'empêche qu'elle était quand même présente. Quand on m'a décoré de la Légion d'honneur, elle était présente à ma remise de Légion d'honneur. Et Madame Veil, quand elle a... Du reste, pour moi, j'ai beaucoup prié pour elle. Comment une femme qui a subi de telles choses horribles dans les camps de concentration a-t-elle pu porter cette loi qui met fin à la vie dès le début? Comment est-ce que c'est possible spirituellement? Pour moi, c'était un mystère. Comment a-t-elle pu faire? Il a fallu qu'elle soit portée par quelque chose. Je ne sais pas par quoi, mais ce que je sais, c'est que, ça pour en avoir discuté avec elle, la loi Veil n'avait pas vocation à être inscrite dans la Constitution. Pas du tout. Et tous les dérapages, alors moi je les ai vécus pendant les 40 ans de ma vie politique, j'ai vécu, et hier j'ai eu l'occasion de rappeler l'agenda des dérives de la loi Veil. Quand Madame Veil a fait voter cette loi, eh bien, elle ne voulait pas ça. Il y avait des garde-fous qui, les uns après les autres, ont été enlevés. Et on a vécu l'année dernière la constitutionnalisation. Et voyez-vous la chose absolument incroyable sur le plan spirituel. Le député qui m'a succédé dans ma circonscription est Madame Berger. C'est-à-dire cette femme qui a fait inscrire l'IVG dans la Constitution. Vous voyez, pour moi, il y a une dimension spirituelle qui est absolument incroyable. Comment se fait-il? Il y a 577 circonscriptions en France. Il y en a une seule où vraiment le combat pour la vie, que j'ai labouré cette circonscription pendant 30 ans, et j'étais la seule à le faire à fond, et de façon cohérente du début à la fin. La personne qui me succède, après Jean-Frédéric Poisson, c'est Madame Berger. Souvent, j'ai demandé, maintenant je ne le demande plus au bon Dieu, mais je dis, mais Seigneur, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Comment est-ce que c'est possible? Pourquoi tu as voulu que cette femme vienne dans cette circonscription qui défendait la vie et qui maintenant demande l'inscription dans la Constitution?
Donc, vous avez parlé de dimension un peu de combat, on est dans un combat purement spirituel.
Absolument.
Qui ne s'incarne pas d'une manière visible, mais invisible.
Ah ben bien sûr.
Pour
moi, c'est
clair. Une lecture ou une relecture.
Ah ben bien sûr, mais bien sûr. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis absolument convaincue aujourd'hui que nous sommes la France qui est en déclin et dans un combat spirituel.
Au fond, on perd cette dimension aussi de l'incarnation.
Ah ben bien sûr.
C'est tout le combat derrière.
Mais c'est énorme. Quand on prend conscience de cette réalité-là, et c'est pas facile de prendre conscience de cette réalité-là, d'autant plus que nous sommes formés depuis plus de 200 ans, 300 ans, 250, 300 ans, à en fait a éliminé cette dimension de l'incarnation. Par la Révolution française, la volonté, et ça je pourrais en parler si vous voulez, mais par la volonté du temps des Lumières, du reste, oui, le XVIIIe oui. siècle, nous sommes préparés à accepter de renier Dieu pour prendre sa place. Et en fait, nous y sommes aujourd'hui.
Et on est dans ces temps des Lumières que vous évoquez. C'est aussi le temps aussi de la franc-maçonnerie et puis de tout ce travail qui est des loges où se sont finalement dessinées et préparées toutes les lois sociétales que la France aujourd'hui a acceptées.
Absolument.
On est d'accord ?
On est d'accord, mais il y a une chose. Il y a une chose à laquelle je tiens. Je pense qu'il faut être lucide et regarder la vérité. Mais la mission du catholique n'est pas d'enfermer dans une boîte les gens. La franc-maçonnerie a une idéologie et une pensée qui est inverse à celle du catholicisme. Et c'est ça, son objectif, c'est cela, même si peut-être que tous ne sont pas conscients de cela. Moi, je ne veux pas enfermer les francs-maçons dans leur boîte.
À qui a des oreilles pour entendre, entende. On vous écoute, on vous entend. Et je vais vous demander tout simplement, Madame Christine Boutin, auteure de ce livre, chers auditeurs, je vous invite à être curieux, à devenir lecteur. Il est paru aux éditions de Pierre Tecky. Il s'intitule « Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français ». Et la France, notre pays, a besoin plus que jamais d'hommes et de femmes, jeunes ou moins jeunes, de répondre comme vous avez répondu il y a plus de 40 ans, où vous avez donné ce grand oui dans l'obéissance. À demain, même lieu, même heure.
Au revoir.